Donc ce soir, j'aimerais suggérer quelques réflexions, parce que dans les groupes, évidemment, on entend des questions qui se posent, des doutes et autres, et qui peuvent être multiples. Et aussi, c'est important parfois de se poser des questions qui sont posées dans les groupes, des questions qui, évidemment, sont un peu essentielles. Sur ce qui se passe. Une des réflexions qui est là, c'est, par exemple, évidemment, nous sommes ici dans un espace protégé, nous sommes un peu dans un vase clos, donc voilà, c'est quelque chose de spécial, mais en fait, dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Quel est l'impact, dans le fond, de la pratique dans la vraie vie? Alors, donc, faut aborder un petit peu cet aspect-là de la pratique pour montrer qu'il n'y a pas, dans le fond, de rupture entre vraie vie et puis notre petit univers ici. Aussi, ce que nous explorons dans la méditation n'est pas coupé de la vraie vie, pour utiliser ce terme. Dans le texte de Vimalakirti, l'enseignement de Vimalakirti, donc un enseignement assez ancien qui date du 3e siècle de notre ère, voilà ce qu'il dit. Des affirmations assez importantes. Il est la sagesse sans compassion et servitude, la compassion sans sagesse et servitude. Alors ces termes de sagesse et compassion, bon, c'est les termes qu'on utilise très fréquemment, qui reviennent, mais on pourrait aussi essayer de formuler ça un petit peu différemment pour pas se laisser enfermer dans ces notions-là. On pourrait dire aussi, d'une certaine manière, que la liberté sans responsabilité, elle est superficielle. Une liberté sans responsabilité est superficielle. Et une responsabilité, un engagement sans sagesse, il peut être exclusif. Il manque de perspective, dans le fond, d'ouverture. Donc j'aimerais bien aborder ceci, ce soir, de parler un petit peu de ceci. Je suis pas sûr que ça va être cohérent. Je vais prendre quelques réflexions ici et là, puis voilà, vous en ferez ce que vous voudrez, peut-être tout cohérent ou pas, dans le fond, peu importe. Donc, quand on parle de liberté, évidemment, il y a de nombreuses libertés. Liberté a beaucoup de sens, et toutes les libertés sont importantes. Il n'y a pas simplement une liberté au sens, on pourrait dire, bouddhique ou spirituel du terme, une liberté ultime. Oui, bien sûr, c'est important. On en parle ici, on explore ce que ça pourrait bien vouloir dire, mais il y a une liberté psychologique aussi, il y a une liberté économique, politique, sociale, juridique. Enfin, il y a beaucoup de différents aspects de la liberté qui sont tous importants. On peut pas simplement, ce serait, je crois, une erreur de se préoccuper uniquement de, si on veut l'appeler comme ceci, de liberté spirituelle, et puis croire que on peut complètement se détourner des autres types de liberté, on verra, psychologique, économique, politique. Mais il est évident que chacune de ces liberté, ces types de liberté, eh bien, ils demandent un type d'activité différente. Et il est nécessaire, il est judicieux de s'engager dans différents types d'activités pour défendre certaines de ces libertés. Donc d'abord, je voudrais parler de la liberté ultime ou spirituelle, celle qu'on a vraiment abordée ici. Celle qu'on essaie de découvrir ou d'évoquer, bon, c'est une liberté, ce dont on se libère, principalement, c'est cet enfermement dans le moi-je. On essaie de découvrir comment on pourrait dépasser ceci, rester dans une conscience ouverte plutôt qu'une conscience dans le fond assez restreinte, fermée, enfermée par la notion de moi. Mais quand on parle de liberté, même ici spirituelle, qui est donc une expérience intérieure, si on prend les termes traditionnels de nirvana ou l'inconditionné, on se rend compte qu'on est déjà en train d'en faire des choses. L'inconditionné, le nirvana, or ce ne sont pas des choses, l'inconditionné, le nirvana, ici on parle de liberté, c'est quelque chose de vivant, c'est-à-dire quelque chose qui se passe d'instant en instant, ça ne peut pas être quelque chose de solide. La manière dont on utilise les termes, nirvana, l'inconditionné, il amène beaucoup de confusion. Une personne aurait atteint l'inconditionné, le nirvana. Waouh, c'est cool, atteint le nirvana. Mais dans le fond, ça veut rien dire. Il n'y a pas un nirvana qu'on pourrait atteindre, comme on atteint, je sais pas, moi, le sommet du Mont Blanc. Oh, il est arrivé au sommet du Mont Blanc. Voilà, bon, c'est clair, on prend une photo, on est sûr. Mais on me dirait que de toute façon, il va pas tenir longtemps, ce sommet du Mont Blanc. Il reste quelques instants. Mais dans cette exploration de ce qu'on peut appeler l'inconditionné, c'est une expérience vivante qui est là d'instant en instant. Il n'y a pas l'inconditionné. Il y a un moment de vie qui n'est pas conditionné par la confusion, par le désir, par l'aversion, etc. Il y a des moments, des expériences qui ne sont pas prises dans cette confusion. Mais ceci ne peut se relier qu'à un instant de conscience qui est dans la vie en cet instant. Il n'y a pas de bloc comme ceci d'inconditionné nirvana. Donc ça, évidemment, c'est quand même important parce que il n'y a pas quelque chose à atteindre qui ferait que finalement le chemin serait terminé. Moi, j'ai atteint nirvana. J'ai plus besoin de méditer, j'ai atteint l'inconditionné. Maintenant, ça ne veut pas dire que dans le cheminement, il n'y a pas aussi, par moments, certains types de confusions qui disparaissent. Il y a des sortes de paliers de confusion qui disparaissent. Il y a quelque chose qui se développe, mais quand même, ça sera toujours à revivre dans l'instant. On ne peut pas croire que là, il y a quelque chose qui est atteint. À l'inverse, peut-être d'une liberté politique. On pourrait avoir un décret. À ce moment-là, on a une certaine liberté, on a un décret ici, je ne sais pas si vous l'appelez politique ou social et autre, et tout d'un coup, on a atteint, un peuple, un groupe a atteint cette liberté. Il y a un papier. Et ceci, c'est quelque chose de définitif, en tout cas pour l'instant. Mais c'est pas la même chose dans le cas d'une expérience intérieure, spirituelle. Il n'y a pas de décret qui pourrait dire, voilà, c'est bon, vous avez atteint ceci, même si dans certaines traditions, on parle du zen, quand le maître, il donne je sais pas, le bâton ou le bol qui montre la transmission, ça ne veut pas dire quand même que cette personne a atteint quelque chose de définitif, ça sera quand même à réactualiser d'instant en instant. Donc ce qui se passe dans, si on veut relier ceci, cette liberté à l'engagement, par exemple, eh bien, s'il y a cette liberté de la notion du moi, par exemple, il n'y a plus ce centre qui, dans le fond, qui limite et qui rapporte tout à lui-même, eh bien, il y a quelque chose qui est une ouverture aux autres qui est naturelle. Les textes le décrivent bien, hein, certains textes que, et je crois qu'on le comprend très simplement, si on a des difficultés, des problèmes, une tristesse, etc., on a de la peine à être disponible pour les autres. Même si on veut, mais voilà, il faut qu'on s'occupe de nous. Je crois que l'organisme est ainsi fait qu'il réquisitionne notre requête, notre attitude pour qu'on s'occupe de nous-mêmes parce qu'il faut régler ces choses-là. Et puis, quand tout d'un coup, il y a moins de difficultés dans ce cas-là, on est plus disponible pour les autres. Et si on pousse ceci encore plus loin, c'est-à-dire il y a plus ce moi-je, à ce moment-là, il y a cette ouverture, cette parfaite disponibilité sur les autres. Il n'y a pas de compétition, il n'y a presque que les autres. Il n'y a pas, c'est remis, il y a quelque chose ici. Et donc la sagesse permet d'atteindre cette ouverture aux autres. Et puis aussi, quand on développe la bienveillance et autres, ben ça permet aussi cette ouverture qui va favoriser la sagesse. On a ces deux aspects. On l'aborde par la sagesse qui donne cette ouverture. On l'aborde par l'ouverture de bienveillance, ou les quatre brahmaviharas, qui va aider cette ouverture, qui est synonyme de sagesse. Donc ce qui est mis en jeu ici, c'est pas simplement sorte de ça sera beaucoup mieux, on est libre de ce moi-je qui nous enferme, mais il y a aussi cet impact que ça va avoir sur notre environnement. J'ai formulé ceci comme cela, la liberté sans responsabilité, sans engagement, c'est superficiel. On a l'impression qu'il manque quelque chose. qui fait qu'elle reste dans le retrait. Alors que là, c'est un rapport à autrui parfaitement ouvert, spontané, naturel, qui n'a pas besoin de se convaincre, simplement parce qu'on pourrait dire qu'il n'y a pas de concurrence. Et il y a cette ouverture sur l'aube. Donc, on se rend compte là que, en développant, en explorant ce que nous explorons ici, peut-être par moments, en limitant un petit peu ce centre de moi-je, et quelquefois peut-être même se rendre compte qu'il n'y a rien, combien tout d'un coup ça donne cette disponibilité à autrui, combien ceci pourrait s'exprimer dans le rapport à autrui de manière tout à fait remarquable, noble, et non pas quelque chose qui resterait renfermé sur soi-même. Mais évidemment, il y a beaucoup d'éléments dans ceci, notamment que si c'est fragile et qu'on peut le protéger toujours, alors on va rester à l'écart, isolé. On a des cas comme ceci où des gens se retirent toujours du monde parce que finalement, ils voudraient protéger un petit peu cette sensibilité spirituelle qui fait que le défi du rapport à autrui peut faire ressurgir cette notion du moi. Mais ça, évidemment, c'est judicieux. Vous voyez, quand on parle de... Bon, là, on est dans une atmosphère protégée, une lumière protégée, mais dans la vraie vie. Mais on est dans la vraie vie ici. Alors, c'est ce qui est génial, on a une vie en communauté avec toutes les raisons de s'agacer. Moi, je décris toujours ça. Quand je suis en retraite tout seul, je peux m'agacer contre le frigidaire qui fait trop de bruit, un deux trucs, mais bon... Lui donner un deux coups de pied, c'est vite passé. Mais là, on a tout ce jeu des gens. Et là, on se rend compte tout d'un coup de ce qui entrave notre liberté. On se rend compte ici de nos préjugés, de notre irritabilité. Tout est là. Il n'y a pas quelque chose qui manque. Ce qui est intéressant quand on est dans une communauté ici, en silence, etc., c'est qu'on voit bien ces choses surgir et ça permet de les explorer. C'est vrai que dans la vie quotidienne, dans la vraie vie, pour employer ces termes, ça va plus vite et souvent c'est plus difficile. Donc là, on a tout loisir de voir comment on peut être gêné par des choses souvent insignifiantes. Donc la vraie vie, elle est aussi ici. Quand on parle avec les moines, on dit ouais, « c'est génial, dans votre monastère, vous n'avez pas de problème ». Écoutez-les, ils vont vous dire, mettez 30 moines ensemble, vous verrez comment c'est difficile. Chacun a sa personnalité, et ils le disent en toute sincérité, ils ne sont pas en train de jouer. Dès qu'on a des personnes ensemble, avec évidemment des personnalités différentes, heureusement, eh ben, il y a quand même ces endroits où tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on s'irrite. On dit, il y a des choses qui nous irritent. C'est pas tout à fait juste, c'est qu'on s'irrite. La personne ne m'irrite pas, c'est moi qui m'irrite. Je m'irrite parce que truc, chose, il est trop lent, il est trop rapide, il fait ci. Mais c'est moi qui m'irrite, c'est pas la personne qui vient, je vais t'irriter. Non, c'est... Vous voyez, il faut prendre la responsabilité de ce qui se passe en nous. Et ça, je crois que c'est le premier point important, c'est qu'on prend la responsabilité de ce qui se passe en nous. C'est pas l'autre qui fait ceci, c'est pas normal, ça mérite. On n'a que des gens normaux ici, donc il n'y a pas de problème. Mais tout d'un coup, ça va toucher quelque chose en moi qui fait que je mérite. Et donc là, un des points importants, c'est de prendre cette responsabilité de ce qui se passe en moi. Pas en accuser l'autre. Si on en accuse l'autre, tu veux pas aller lui dire marcher plus rapidement, plus lentement, etc. Vous imaginez, on passerait notre temps à essayer de corriger les gens, tu vois, lui, elle, non, ça la gêne, tu vois, voilà. Faut pas que tu manges toujours à la même place, voilà, change de place. Et c'est, vous riez, mais moi, j'ai bien vécu ça, hein, c'est pas, pour moi, c'est pas bizarre, ou c'est pas parce que je les entends dans les entretiens, j'ai vécu ça à de nombreuses reprises. C'est manière d'être irrité quelquefois, mais pour rien. Je me souviens, au Forest Refuge, j'étais irrité par une personne. J'avais même pas entendu le son de sa voix, mais rien du tout. Elle marchait même pas ni lentement, ni rapidement. Elle m'irritait. C'est... Je méritais, voilà. Donc, et c'est vrai que tant qu'on pense que la personne nous irrite, à ce moment-là, on ne peut pas vraiment commencer à explorer ceci et puis se libérer de ce conditionnement. Donc, on peut imaginer une liberté spirituelle, ou même si elle se passe d'instant en instant, un peu libre de confusion, du moi, etc., avec des expériences peut-être claires, mais il y a quand même l'autre aspect pour moi qui est important, c'est la liberté psychologique. Et qui joue, là on vient de la toucher un petit peu, cette irritation qui vient, quel que soit mon contexte, mon histoire, parce qu'on a quand même des exemples de maîtres spirituels qui semblaient voilà, avoir compris quelque chose à l'ultime, et qui se sont comportés de manière atroce. On a l'impression qu'il y avait des graves problèmes. Pourquoi ? Parce que peut-être bien qu'ils avaient une technicité qui leur permettait, voilà, une expérience de lumière, enfin, sans moi, etc. Mais qu'ils n'avaient pas vraiment travaillé sur ces aspects psychologiques, et qui fait que là, ils restaient dans une grande confusion. À quoi ça sert d'avoir des expériences spirituelles claires si c'est pour être complètement conditionné dans la vie quotidienne et puis avoir autant de difficultés dans les rapports humains, et aussi ne pas y voir clair dans nos conditionnements. Donc, à nouveau, cette vie en communauté nous aide aussi, nous ramène à ces petites choses qui en nous, qu'il faut qu'on mette en lumière, qu'on prenne où est la confusion à ce niveau-là. Donc, cette liberté psychologique, elle surgit naturellement dans la méditation. Là, j'ai parlé du rapport entre nous, mais elle surgit aussi naturellement dans la méditation, quand on touche des émotions, on est là bien tranquillement, il n'y a rien qui nous dérange à l'extérieur, et puis tout d'un coup, il y a des zones qui sont inconfortables dans le corps, et puis on touche des tristesses, des angoisses, etc. Donc ça fait partie du processus normal, et ça fait partie justement du processus de libération. Enfin, ce n'est pas des défauts, au contraire. Je le dis souvent de manière un peu, je ne sais pas... étroite que un système des retraites où on serait toujours content, joyeux, heureux, etc. J'aurais pas vraiment confiance, quoi. Je me dirais mais où est-ce qu'on va toucher nos limites? Comment est-ce qu'on va se libérer de ces zones d'ombre? Jung avait une phrase assez intéressante. Il disait l'éveil, l'illumination, il emploie ce terme-là. Ce n'est pas d'aller vers la lumière, c'est d'amener la lumière dans l'ombre. C'est un peu ce qui se passe dans nos pratiques naturellement. Surtout si on ne pense pas que les ombres, ces émotions, ces difficultés qui surgissent, si on n'imagine pas que ce sont des obstacles, au contraire, ce sont des opportunités pour nous de nous libérer de quelque chose. On vient à la vie du Bouddha. Enfin, avant l'éveil, il est attaqué par les armées de Mara, donc c'est quelque chose d'assez caractéristique. Ces armées de Mara, c'est quoi? C'est des émotions. C'est l'orgueil, c'est le désir, c'est le ressentiment, etc. Et c'est bien parce qu'il les intègre, il les rencontre, qu'il va pouvoir s'éveiller. Donc là, le mythe déjà nous met quelque chose en lumière. On aurait très bien pu avoir un autre mythe où finalement le Bouddha aurait été dès l'origine complètement éveillé, etc. Il n'aurait jamais connu de difficultés, jamais de zone d'ombre. Les gens qui veulent, qui essaient de promouvoir un tel mythe, mais ça nous parlerait beaucoup moins. On dirait d'accord, c'est super pour lui, mais bon, on n'est pas le Bouddha, ben, tant mieux pour lui, ok. Ça n'aurait pas de sens pour nous. Ça a du sens parce que justement, dans ce cheminement qu'il a fait lui, on se dit, ben voilà, c'est le cheminement de chaque personne. Donc on peut s'engager dans un tel... Donc les émotions, on en a parlé, et c'est une manière aussi de pouvoir amener la lumière dans l'ombre, pour employer cette image, de pouvoir se libérer de choses, quand on les touche de manière judicieuse, de se libérer de colère, de tristesse, d'angoisse. Il y a vraiment cette possibilité dans le cheminement spirituel, méditatif, et qui va avoir un impact dans la vie quotidienne, ça c'est évident. C'est pas coupé de ceci. On ne peut pas dire qu'une personne qui va à l'hôpital, ça ne va pas du tout, ça ne sert à rien parce qu'elle se coupe de la vie ordinaire. Elle est là, elle est là, elle fait un traitement et puis ça va la remettre d'aplomb, on espère. Puis à ce moment-là, elle est plus efficace. De la même manière, on est là, on explore des zones difficiles et qui nous permettent d'être un peu plus clair et finalement d'être dans la vie quotidienne un peu moins conditionnée. Mais un des aspects qui me semble important, il ne suffit pas juste de reconnaître les émotions, c'est de la colère, c'est de l'inquiétude, c'est de la tristesse. Parce qu'on pourrait très bien imaginer ceci, j'ai reconnu, c'est de la tristesse, c'est de la colère, et je reviens à une zone claire en focalisant mon esprit de manière plus centrée, ce qui fait que ces choses ne me dérangeraient plus. Mais on aurait raté l'opportunité de découvrir le contexte de cette émotion. Il y a une émotion, il y a évidemment une inscription corporelle, il y a aussi une croyance, une vision du monde qui sous-tend cette émotion. D'ailleurs, dans le Satipatthana Sutra, le jour, Patricia me disait une phrase où c'est justement dit, la personne est consciente, le moine, la nonne, le pratiquant, la pratiquante est consciente quand il a l'esprit troublé, dans le fond, par le désir. Mais c'est aussi comment le désir surgit et comment il cesse. Ce texte dit ceci. Il dit pas juste, voilà, on est conscient. Ah, ça c'est du désir, ça c'est de l'inquiétude. Je reviens à une zone d'ancrage. Non, aussi conscient comment ça surgit, comment ça cesse. Donc là, c'est expliqué d'une manière succincte, dans le fond. Mais ça nous permet aussi de nous dire, ben voilà, comment est-ce que ça surgit, cette inquiétude? Ben, si je suis inquiet, il y a quelque chose qui surgit. Sentiment d'insécurité, de danger, quel qu'il soit, ou de la colère, quelque chose qui, dans le fond, qui m'irrite. Alors, quelque chose qui m'irrite, c'est pas toujours juste l'environnement, là, c'est simple. Si c'est la personne qui mange trop bruyamment, bon, on va manger ailleurs, si on veut. C'est simple, non, c'est souvent des, au contraire, des choses qui sont plus profondes en nous-mêmes, et on va tout d'un coup découvrir, sans, vouloir refaire son passé, mais on va découvrir tout d'un coup, tiens, là il y a quelque chose, une situation, une croyance, une vision du monde qui fait que ça mérite. C'est pas normal de faire ceci. Oui. C'est pas normal. Hein. Donc c'est cette croyance qui fait que ça mérite, ce sont évidemment des caricatures, ça mérite et à ce moment-là, eh bien, je suis simplement en train de toucher quelque chose qui est ma sensibilité, certainement due à mon histoire. Donc c'est pas en refaisant notre histoire, en essayant de rechercher dans le passé tout ce qu'on a vécu, parce que je crois pas que c'est pas comme ça que ça se passe en méditation, je suis même pas sûr que en psychothérapie ça se passe exactement comme ceci, mais c'est en étant en contact que tout d'un coup on se rend compte du sens de ceci. Le sens de l'irritation, le sens de l'inquiétude, le sens de la tristesse qui implique une vision particulière. Je prends souvent le désespoir ou la dépression, même si ce sont des choses compliquées, je ne veux pas hyper simplifier, il y a aussi des questions biologiques de ceci, mais si on regarde une personne qui serait déprimée, pour employer ceci, bien, cette personne manquerait d'enthousiasme, d'intérêt, d'énergie, de curiosité, voilà, avec toute cette apathie qui est là, qui marque dans le fond la dépression. Elle s'intéresse à rien. Si on essaie de l'intéresser, on se rend compte que ça joue pas, hein, on veut l'inviter à faire ceci, à faire cela, viens faire une marche, j'ai pas envie, il fait trop chaud, il y a des moustiques. Mais toutes les suggestions, finalement, elles vont être repoussées. Et si on regarde quelle est, dans le fond, la vision du monde de cette personne, ben, la vision, c'est que, dans le fond, il y a... Tout est gris, tout est terne, il n'y a rien à attendre. Il n'y a aucune satisfaction dans rien du tout. Je ne vais pas pouvoir trouver de la satisfaction parce que le monde, il est inintéressant. Et cette personne-là, dans ce cas-là, elle prend ça pour la réalité. C'est comme ça qu'il est le monde. Le monde, il est comme ceci. J'ai déjà mentionné pour une personne inquiète, ben le monde il n'est pas sûr, il y a des dangers partout. Nous, je sais pas, dans la forêt, on pourrait, bon, c'est pas les chevreuils ou les biches qui vont nous inquiéter, mais je sais pas, on pourrait rencontrer des sangliers ou je sais pas quoi, il y a des chasseurs. Vous voyez, l'inquiétude qui fait qu'il y a une sécurité nulle part, fait qu'il y a une sorte de vision du monde. Il y a une vision du monde comme quoi le monde n'est pas un monde sûr. Il n'y a aucun monde qui est totalement sûr. Mais là, il y a un excès de vision négative. Et la personne prend ça pour une vision objective. Le monde, il est comme ceci. Quand je dis que c'est une vision particulière, là, c'est des choses caricaturales. Mais ici, c'est des visions générales. Mais on pourrait très bien avoir une vision par rapport à une personne, par rapport à une situation, etc. Où ça mérite à cause de ceci. Quoi. On fait pas ceci, c'est pas normal, etc. Donc, je crois que si on veut aussi avoir cette liberté psychologique, ben, il s'agit de se rendre compte de ceci autrement. On pourrait juste, les émotions surgissent, on peut les intégrer, juste d'accord, je les accepte, mais si j'ai pas compris le contexte, elles vont ressurgir. Pour revenir à mon histoire là du début, voilà, je projette sur une personne, elle mérite, voilà, cette personne, elle mérite. Alors chaque fois que je passe près de cette personne, ça m'énerve. Mais je la vois, ça m'énerve. Voilà. Ben déjà là, ok, hein, on peut déjà se rendre compte que dans le fond, on voit cette personne comme une personne énervante. Je plaisante toujours en disant, il y a un t-shirt qui écrit énervant, énervante. Énervante. Voilà. Or, je projette sur cette personne une qualité négative qui est d'être énervante, ce qui fait que je la rencontre. Chaque fois que je rencontre cette personne, il y a le même t-shirt, énervante. Mais il y a pas de t-shirt. C'est ma projection, c'est moi qui projette sur l'autre ceci. Et quand je prends la responsabilité de cette projection, à ce moment-là, je suis complètement libre par rapport à cette personne. Elle est même sympa. Ça arrive. Hein. Donc, prendre la responsabilité de ceci. Comment on projette les choses, mais c'est nous-mêmes qui les projetons. Et tout ce jeu des projections qu'il y a dans la vie, eh bien, dans la méditation, par la pratique, hein, on peut amoindrir ceci et s'en libérer. Et ça vient du fait de rester plutôt centré en soi-même que ce mouvement qui constamment projette sur les autres. Là, il y a une immense liberté qui peut être la liberté psychologique. Donc ça fait partie du cheminement spirituel. Et c'est important. Donc pas juste une sorte de technique et autre. Il y a tout ce qui se passe entre nous. Là, c'est génial. Et on n'a pas besoin de choisir une, deux personnes au début de la retraite. Toi, essaie d'être énervant et toi, etc. pour que ça marche. Il n'y a pas besoin. Il y a les conditions qui sont là qui fait qu'évidemment, on peut s'irriter de tout, quelquefois même en se trompant, quoi. Oh, il n'y a pas de café ce matin, je raconte toujours le café, j'adore le café. Il n'y avait pas de café ce matin, c'est dégueulasse. Puis je vais vers Michel, et puis il me dit, mais regarde, il est là le café. Voilà, je me dis irrité, ben, confusion. Donc, de prendre la responsabilité de ces projections qui nous enferment. Il n'y a rien qui nous enferme plus que ces projections, et ces projections nous empêchent d'être présents, et ces projections nous empêchent d'être centrés, c'est-à-dire de développer cette qualité-là. Voilà pour montrer un peu comment ça se passe. Et ça, évidemment, c'est immensément utile dans la vie quotidienne. En ce qui concerne les autres libertés sociales, économiques, politiques, ou engagement écologique, ben, bon, moi, j'ai pas grand-chose à dire, je connais pas grand-chose là-dessus. Beaucoup de personnes connaissent beaucoup mieux ces choses-là. Enfin, on sait bien s'engager politiquement, aller voter, etc. Il y a mille manières de le faire. Vous voyez, liberté économique, évidemment, si on a une responsabilité de pas sous-payer, par exemple, des autres ou mal les traiter, hein, cette liberté économique vient aussi du fait qu'on respecte le travail d'autrui. Quand on a cette position de décider. Donc il y a mille manières où finalement on peut aussi, dans cette conscience de ce qui se passe, essayer d'être attentif à ces libertés sociales, économiques et politiques. Là, évidemment, il y a des réflexions complexes, multiples à ce sujet-là, donc qu'on peut évidemment On peut s'informer pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. Souvent, ça donne des situations assez riches, assez complexes. Donc, dans ce texte de cet enseignement de Vimalakirti, qui enseigne beaucoup la sagesse, on pourrait dire une grande partie c'est de la sagesse, il enseigne la non-dualité entre un sujet et un objet, cette manière d'être intime, d'être dans cette pleine conscience, ou présence attentive, mindfulness, où finalement on est juste l'expérience. Il parle beaucoup de ceci dans son enseignement, mais il y a aussi une partie où il parle de la compassion. Je vais juste vous lire les conseils qu'il donne si on veut approfondir, accomplir le chemin spirituel. Alors bon, c'est souvent quand même assez exigeant, mais c'est des invitations, c'est pas des obligations, c'est pas tu dois faire ceci, tu dois faire cela, mais voilà un peu l'attitude qu'on pourrait développer. Je vous la donne. Ce qui m'a surpris, c'est que on trouve ceci dans ce siècle du 3e siècle, si vous voulez, et puis les Tibétains utilisent beaucoup ceci, mais leurs textes viennent de, je sais pas, du 12e siècle, etc., et de trouver déjà l'origine dans ce texte extrêmement ancien. On voit bien cette continuité qu'il y a dans la tradition bouddhique, aussi avec le nombre de 8, qui est le nombre de 8 qui surgit par la suite. Voilà, je vous dis un peu ce que le texte nous dit, là. Voilà, il dit, ben, il faut s'appliquer à bénéficier à tous les êtres vivants, mais ne chercher aucun bénéfice de leur part. Ne pas chercher un avantage de la part des autres, mais essayer de leur être utile, de le bénéficier, sans soi-même en vouloir en retirer quelque chose. Endurer la souffrance de tous les êtres vivants et donner toutes ces racines de mérite à tous les êtres vivants. Ça veut dire, c'est endurer la souffrance. C'est un des termes un peu ambigu, mais ce qui veut dire, c'est d'être ouvert à la souffrance des autres. Ici, tout la pratique de la compassion, être ouvert à la souffrance des autres, ne pas éviter, ne pas fermer les yeux, avec cette équanimité qui permet cette ouverture et qui fait qu'à ce moment-là, évidemment, la réaction peut être juste. Et leur offrir toutes les qualités que je développe, que j'ai développé, etc., souhaiter qu'eux-mêmes puissent les développer. Donner toutes les racines des mérites aux autres, ça paraît un peu étonnant. C'est pas quelque chose qu'on peut donner comme ceci, mais ça veut dire vraiment souhaiter qu'ils puissent aussi développer ces qualités. Être libre de tout ressentiment envers tous les êtres. Tout ressentiment envers tous les êtres. Ça, c'est un travers dans lequel on tombe facilement. On croit que avoir du ressentiment face aux bonnes personnes, ça c'est pas bien. Mais envers les salauds, ça on a le droit. Ça non, on est justifié. Mais le ressentiment, ça reste le ressentiment, ça reste quelque chose qui nous enferme. Et dans ce sens-là, on n'est pas libre. On voit bien, ben, on a pas mal d'images de gens qui ne sont pas vraiment fréquentables, parler légèrement. Mais ce ressentiment qu'on peut avoir, hein, ça nous enferme. Cette richesse qu'on pourrait avoir si en face des pires personnes, il n'y a pas de ressentiment. On a trouvé des exemples, on a trouvé chez Gandhi, Martin Luther King et d'autres, cette immense force, Mandela, cette immense force qui fait qu'on ne tombe pas dans ce travers du ressentiment. Mais ce n'est pas un cadeau qu'on fait à l'autre personne, c'est évidemment un cadeau qu'on se fait à soi. De savoir où se trouve notre propre liberté. Évidemment, c'est une zone d'exploration. On a quand même des défis assez grands à l'heure actuelle. On a sûrement eu tout le temps, mais là, on a des défis extrêmement importants. Et te dire, est-ce que je peux, voilà, regarder cette personne? C'est pas en vrai, en général, c'est sur des écrans, peu importe, télévision ou l'ordinateur. Est-ce que je peux être face à cette personne sans ressentiment? Bon, j'ai souvent raconté cette histoire de Mandela parce que je la trouve très claire. Quand Bill Clinton est allé visiter Mandela en Afrique du Sud, Mandela a voulu lui montrer la maison dans laquelle il avait été enfermé pendant 12-13 ans. Et il a dit à Bill Clinton, quand je suis sorti, j'avais beaucoup de ressentiment contre les Blancs. Il a dit, je me suis rendu compte que tant que j'aurais du ressentiment, ils me possédaient. Ils me possédaient. Donc il a laissé tomber. Il ne voulait pas leur donner ce pouvoir-là. Donc le ressentiment, c'est donner un pouvoir à l'autre. Chaque fois qu'il surgit, ça nous énerve. Donc savoir où se trouve la liberté, ne pas tomber dans ce ressentiment. Bon, il y a des remarques intéressantes. Là, s'abstenir de rejeter des enseignements, qu'on les ait entendus auparavant ou non, mais c'est contre le sectarisme. Il faut voir bien qu'à cette époque, le troisième siècle, il y a différentes sectes bouddhistes, et là le texte dit, mais ne vous fermez pas à des enseignements, n'essayez pas d'être sectaire, donc restez ouvert à tous les types d'enseignements. On pourra parler de Theravada, Hinayana, Mahayana, Tantra, mais ça voudrait dire restez ouvert. Ça ne veut pas dire qu'on ne reste pas critique, mais on ne va pas les rejeter parce qu'ils appartiendraient à une tradition et une autre. Avoir un esprit équilibré qui n'envie pas le gain des autres, ni n'est fier de ses propres gains. On n'envie pas. Pour nous parler de gains spirituels, c'est-à-dire on a un groupe, etc. C'est super, puis il y a une personne qui raconte son expérience de nirvana. C'est dégueulasse. Pourquoi elle? Pourquoi lui? Voilà, c'est quand même. Ouais, il en rajoute, il en rajoute. Donc, voilà, pas tomber dans ce travers, c'est aussi quelque chose qui peut nous enfermer. Plus on a toujours une difficulté à évaluer les expériences des autres, on n'a pas à le faire et ça ne nous sert à rien. Le septième point, c'est examiner ses propres défauts et ne pas blâmer les autres pour leur transgression. Pour les autres, ils transgressent quelque chose. Les gens, ils ont parlé là-bas. C'est pas normal. Alors, on va voir Fred. On lui dit, tu sais, ils ont parlé là-bas, etc. Le huitième point, c'est s'engager à développer toutes les bonnes qualités tout en restant vigilant et diligent. Voilà, donc on a ici un programme qui est quand même hein, dans le rapport à autrui, c'est pas juste sur un coussin les yeux fermés. Voilà, je voulais juste évoquer, je suis pas une pointe écologique sans que je sois vraiment compétent ou spécialiste de ceci, mais j'ai lu un petit texte de Martin Buber qui m'a touché parce que je trouve qu'il a. Il donne quelque chose d'assez extraordinaire. Donc, je vais vous le lire dans un texte qui s'appelle Je et tu. Buber écrit des choses assez intéressantes. Bon écrivain. Et là, il essaie de décrire un rapport à la nature, qui est un rapport ici qu'on appellerait Je et tu, en opposé à un je et cela. Pour lui, le cela, c'est un rapport de soumission. Le cela, c'est quelque chose qu'on possède, sur lequel on va agir. C'est quelque chose qu'on a complètement chosifié. Alors le je et tu, c'est quelque chose qui est symétrique. C'est une rencontre. Dans le je et tu, il y a une rencontre. Dans l'autre, il n'y a pas de rencontre. Il y a dans le fond une sorte d'imposition, de possession, d'intrusion. Donc, tout son texte, d'ailleurs, il parle beaucoup de ceci, cette différence entre une manière de voir les solas, donc comment on peut l'utiliser, etc., par rapport à cette rencontre qui se passe. Donc là, il décrit un petit peu comment il parle, il dit, je considère un arbre, il est là face à un arbre. Il va expliquer comment il y a différents types de rapports et comment finalement on arrive à un rapport qui est un rapport de je et tu. Il dit, je peux percevoir l'arbre donc en tant qu'image, pilier rigide sous l'assaut de la lumière, ou verdure jaillissante, inondée de douceur par l'azur argenté qui sert de fond. Là, on a quelque chose de romantique, quoi. Voilà. Je peux le sentir comme un mouvement, réseau gonflé de vaisseaux reliés à un centre fixe et palpitant. Là, on essaie de comprendre un petit peu la vie de l'arbre. Un échange sans fin entre la terre et le ciel. je peux le ranger dans une espèce sur laquelle j'étudierai la structure et les modes de la vie. C'est le botanique, voilà, ça c'est. Tous ces modes sont pas faux, mais hein, c'est pas le mode le plus profond. Donc, je peux le ranger dans une espèce sur laquelle j'étudierai la structure et les modes de la vie. Je peux l'éterniser en le réduisant à un nombre, à un pur rapport numéral. Et là, il se réfère évidemment à la science, notamment à la science de Galilée, qui dit que le monde de la nature est écrit en langage mathématique et géométrique. Donc la seule chose qui est vraie, c'est ce langage mathématique et géométrique qu'il y a dans la nature. Le reste, c'est juste des apparences contingentes qui ne sont pas essentielles. Donc là, il s'adresse à ceci, cette manière de vouloir avoir tout d'un coup des lois qu'on pourra exprimer en langage mathématique ou géométrique. Voilà, je pourrais très bien avoir ce rapport-là. Mais il se peut aussi que par l'inspiration d'une grâce, considérant cet arbre, je sois amené à entrer en relation avec lui. J'entre en relation avec cet arbre, dépassant tout ce qu'il y avait avant. Il cesse alors d'être un cela, quelque chose que je pourrais... comment l'utiliser, etc. Il cesse alors d'être un cela, une simple chose. La puissance de ce qu'il a d'unique m'a saisi. Il se dresse en face de moi. Sa réalité corporelle a affaire à moi comme j'ai affaire à lui. Ce qui se présente à moi, c'est l'arbre lui-même. Donc il essaie de décrire tout d'un coup qu'est-ce que c'est que cette rencontre. Et je pense que là, il a un rapport avec la nature qui est aussi ce que permet la méditation quand il y a cette qualité de présence, qui n'est pas dans le concept. Ça ne veut pas dire que quelquefois on ne doit pas s'occuper de la santé des arbres, ça ne veut pas dire ceci. Mais ici, on explore quelque chose de plus profond, qui n'est pas un rapport où on essaie d'utiliser la nature, de voir ce qu'on pourrait en tirer, ni même d'une certaine manière comme on devrait la protéger, qui serait encore une manière d'avoir le pouvoir sur la nature. Si on veut la protéger, on la protège des hommes, surtout des êtres humains, en faisant des parcs naturels pour pas que les gens aient trop détruits. Donc c'est ce rapport tout d'un coup complètement ouvert qu'on peut découvrir dans la présence, dans la nature, etc., qui fait que de nos vies, il y a ce rapport, donc cette rencontre avec l'arbre lui-même. Voilà, donc ce qui me semble aussi... c'est ce rapport à la nature qu'on peut découvrir quand il y a cette qualité d'être là. On a vu qu'on peut projeter sur les personnes ceci ou cela, on peut aussi projeter sur la nature beaucoup de choses, mais tout d'un coup, en laissant être juste là, et cette rencontre qui peut se passer, voir l'arbre, la plante, la fleur, etc. Voilà, donc je voulais évoquer un petit peu ce texte de Martin Buber, qui est un texte, je l'ai un peu résumé, parce qu'il est assez long, pour essayer d'essayer d'en rendre un peu l'essentiel. Voilà donc ces quelques remarques pour montrer que le chemin spirituel ici, ou la pratique de la méditation, c'est pas quelque chose de coupé de la vie, qu'on rencontre les choses de la vie, là, elle est là, un groupe, c'est quand même beaucoup de personnes ensemble, avec beaucoup d'opportunités, un petit peu d'être dérangé, donc tout est là, et c'est la richesse d'un groupe, avec tout le cadre qu'on donne, qui est un... Ces dérangements sont bien limités, bien mesurés, mais ils surgiront de toute façon, et heureusement qu'ils surgissent.